La Voix de l'Amérique vous propose maintenant un dossier spécial sur la République centrafricaine.
Bonsoir, ici Chérubin Dorcil en compagnie de Nathalie Barge pour ce segment spécial sur la Centrafrique.
Une éventuelle partition de la Centrafrique n'est pas la solution que privilégient les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le secrétaire d'État américain John Kerry dans une interview exclusive au service francophone de la Voix de l'Amérique à la veille de sa tournée africaine. Au micro de Jacques Aristide, voici un extrait de l'entretien avec John Kerry aujourd'hui au département d'État américain.
Enfin, c'est très difficile, vous savez. Moi, j'ai pas une réponse magique. Je veux bien visiter, je veux parler avec tous ceux qui sont chargés de faire les décisions. On verra si on peut aider de plus avec les forces militaires qui peuvent prouver que le gouvernement peut fonctionner. Et à ce moment, les gens ne croient pas qu'on peut trouver une solution. Et c'est très difficile. Mais moi, je veux bien parler avec tout le monde, je verrai. Moi, je n'ai pas une idée à ce moment, mais on ne veut pas diviser, non. Ce n'est pas la solution préférable.
John Kerry, chef de la diplomatie américaine, que nous retrouverons plus tard dans notre partie magazine. Sur le terrain en RCA, un convoi de musulmans délocalisés est arrivé aujourd'hui en début de soirée à Kagabandoro, dans le centre nord du pays. Il a été pris à partie à 60 km après Sibut par des hommes armés assimilés aux anti-Balaka. Le point avec Félix Yepassi Zembro.
Le convoi de quelques 1300 musulmans a quitté Bangui hier à destination des villes de Kabo et Sido, près de la frontière avec le Tchad. Selon une source proche de la MISCA, l'attaque menée par des anti-Balaka a eu lieu en pleine forêt à 60 km de Sibut, non loin de Dekwa. Deux personnes ont été tuées et 6 autres blessées. Les assaillants étaient perchés dans des arbres et ont ouvert le feu sur les véhicules avant de disparaître dans la brousse. Les forces de la MISCA qui escortaient le convoi n'ont pas eu le temps de les rattraper. À Bangui, cette relocalisation des musulmans est fortement critiquée par le gouvernement de transition qui estime que ce n'est pas de nature à entretenir un climat de confiance. Rappelons que peu après leur départ hier du quartier PK13, toutes les maisons et biens de ces musulmans ont été systématiquement pillées. Par ailleurs, 16 personnes, dont 3 agents de Médecins sans frontières, ont été tuées par des ex-rebelles présumés de la Séléka pendant une attaque d'un hôpital à Nanga Bogila, dans le nord-ouest du pays.
Au moins 16 personnes, dont 3 humanitaires de Médecins sans frontières, ont été tuées par des ex-rebelles présumés de la Séléka dans l'attaque d'un hôpital à Nanga Bogila, dans le nord-ouest de la Centrafrique. Idriss Fall adjoint Sylvain Gros, porte-parole de MSF à Bangui.
Alors, ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'un groupe d'hommes armés est rentré dans notre base, qui se retrouve en fait au sein même de l'hôpital de Bogila. Et ils sont rentrés pour faire du braquage, voler des biens. Soudainement, alors qu'on avait une réunion avec des gens de la communauté, donc des leaders communautaires, chefs de village, chefs de groupement, etc., ils étaient environ une quarantaine assis tous devant le service de consultation externe. Et un des hommes armés a commencé à tirer sur ce groupe d'hommes-là. Et à la fin, on dénombre 16 morts, 16 victimes, dont 3 collègues nationaux de Médecins sans frontières. Et en surplus, on a 6 blessés qu'on a pris en charge également à l'hôpital.
Est-ce qu'on sait qui sont les assaillants?
On parle de gens qui sont associés à l'ex-Séléka.
Et est-ce qu'il n'y avait pas des soldats de la MISCA ou de l'opération Sangaris dans les parages?
Non, malheureusement, il n'y avait aucune force internationale dans les alentours.
Sylvain Gros, porte-parole de Médecins sans frontières à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Le continent avait les yeux rivés ce dimanche sur le Caire. C'est dans la capitale égyptienne, siège de la CAF, qu'a eu lieu le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2015. Il y aura encore 2 tours de barrage avant d'accéder à la phase de poule. Dans 3 semaines, les matchs du 2e tour auront lieu. Dans un contexte toujours très difficile à Bangui, les Centrafricains doivent rencontrer la Guinée-Bissau. Nicolas Pinault a joint Jean-Jacques Ambi, le directeur technique centrafricain.
Maintenant, il n'y a plus de petites nations de football. Donc, nous allons prendre la Guinée-Bissau au sérieux et dans le respect. Et nous serons vraiment engagé pour ce match sur double casquette. Je crois que d'abord ramener la sérénité, la confiance sur le peuple centrafricain et déclencher le système, parce que vraiment, contre ces événements, on a vraiment pris du retard et le football également a été touché. Nous avons certains joueurs qui ont joué la CEMAC, donc le statut sera vraiment basé sur les joueurs qui sont allés jouer tout récemment au Gabon. Donc la Guinée-Bissau, nous respectons la Guinée-Bissau et nous allons vraiment nous engager à fond. Bien que ce n'est pas une journée FIFA, donc nous sommes obligés maintenant de contacter directement nos joueurs qui évoluent dans les diasporas pour qu'ils puissent intégrer le groupe.
Est-ce que le match peut se dérouler à Bangui en toute sécurité?
Bon, c'est ce que nous allons voir. Pour l'instant, la sécurité revient tout calmement, mais ça dépendra de la CAF ou bien de la Guinée s'ils acceptent et que nous acceptons. Mais pour nous, nous aimerions vraiment jouer à Bangui. Il y a des dispositions pratiques qui seront prises, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la fédération. Donc il y a des dispositions qui seront prises à ce niveau et tout dépendra vraiment de la Guinée. S'ils acceptent de venir, on pourra jouer ce match.
Dans quel état se trouve aujourd'hui le football centrafricain?
Le football a été touché par ces événements. Il y a eu des exils, des déplacements, tout le monde est parti. Et malgré tout, on a repris le championnat timidement. De 49e, nous sommes retombés au 110e en FIFA. Donc vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Donc nous allons essayer, à travers ce match, de remonter un peu les pentes. Cette semaine, nous allons reprendre les activités au niveau du championnat. Donc en plus de ça, nous allons vraiment encore renforcer la sécurité au niveau du stade. Donc nous allons reprendre le championnat cette semaine.
Jean-Jacques Ombi, au micro de Nicolas Pinault. Merci de rester à l'écoute. C'était Chérubin Dorsil et Nathalie Barge pour ce segment spécial sur la Centrafrique.
Maintenant, un message international du gouvernement des États-Unis.
Le 1er janvier 2008, alors qu'il quittait les célébrations du Nouvel An, un diplomate américain et un citoyen soudanais, tous deux employés de l'Agence américaine pour le développement international, ont été abattus dans une embuscade à Khartoum, au Soudan. John Granville, âgé de 33 ans, travaillait sur des projets de démocratie et de gouvernance pour l'USAID en appui à l'accord de paix historique ayant mis fin à la guerre civile au Soudan. Abdelrahman Abbas Rahama, âgé de 39 ans, a joint l'USAID comme membre de l'équipe de réponse aux catastrophes au Darfour. 5 hommes ont été arrêtés et condamnés en rapport avec leur meurtre, mais 4 se sont évadés, 2 sont toujours en cavale et auraient été aperçus récemment quelque part en Somalie. Identifié comme le leader de l'attaque, Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed est un ressortissant soudanais de 29 ans, aux cheveux noirs et aux yeux marrons. Il a des liens avec Al-Qaïda dans les pays des Deux Nils, un groupe soudanais complotant en vue d'attaquer des intérêts américains, occidentaux et soudanais. Abdel Bassit Al-Jad Al-Hassan Haj Ahmad a de son côté été identifié comme le second tireur dans l'attaque. Lui aussi est soudanais et serait âgé de 30 à 34 ans. Il a des cheveux noirs et des yeux marron foncés. Ils ont été désignés terroristes pour leur rôle dans l'attaque et le gouvernement des États-Unis cherche toute information les concernant. Le programme Rewards for Justice offre une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information pouvant mener à la capture de ces hommes. Les États-Unis garantissent que toutes les informations feront l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée confidentielle. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à protéger ces derniers en les réinstallant ailleurs. Si vous avez des informations sur l'un ou l'autre des suspects, contactez le bureau régional de la sécurité de l'ambassade américaine la plus proche ou envoyez un mot au site internet Rewards for Justice à www.rewardsforjustice.net ou encore à l'adresse e-mail suivante rfj@state.gov.
C'était un message international du gouvernement des États-Unis.
Washington, la voix de l'Amérique.